Je disais à quelqu'un cette semaine, je vais sortir de l'ère des dinosaures, puis je vais venir à l'ère de David Chouinard avec des photos. L'ère moderne, l'ère moderne, l'ère techno. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de Jérusalem. Quand vient le mot Jérusalem, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ville sainte. Hein? Nouvelle Jérusalem, le temple, ah, c'est certain, je suis en train de m'adresser à des chrétiens, à des gens religieux. si je parle sur la rue de Jérusalem, qu'est-ce qu'eux vont me raconter? Guerre, conflit, juifs, quand est-ce que ça va finir? Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, le mot Jérusalem? Son sens? Jérusalem veut dire fondement de la paix, possession de la paix. Aujourd'hui, Jérusalem est dominée par une grande mosquée, la mosquée d'Omar, qui personnifie justement les conflits des trois grandes religions monothéistes au monde. Le judaïsme a perdu Jérusalem en 70. Il l'avait déjà perdu après le temps de Salomon. Et ils veulent Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. L'islam réclame Jérusalem. Elle y a placé une de ses mosquées les plus importantes, le dôme du rocher, parce qu'elle dit que Abraham, avec raison, Abraham a offert son fils sur le mont Morija. Le mont Morija, c'est de bonne heure, mais ça c'est Jérusalem. Oups, non, recule, il ne faut pas que tu me montres là. Recule-moi. Oh, c'est-tu moi qui fais ça, non? Non, okay. Jérusalem a différents mots. On en a besoin de voir un peu la géographie de Jérusalem aujourd'hui. Mais Abraham a offert son fils sur le mont Morija. Sur ce mont-là, Salomon y a construit le temple. Ah, je tremble comme mes amis. Salomon y a construit le temple. Mais on parle souvent de Jérusalem comme de la montagne de Sion. Du temps de David et de Salomon, c'était petit. Puis avec le temps, ça a pris beaucoup d'espace. Jérusalem, du côté est, a une vallée qu'on appelle la vallée du Cédron. Et juste en face de la vallée du Cédron est une autre montagne, un autre mont qu'on appelle le mont des Oliviers. Alors, comme je dis, le judaïsme réclame Jérusalem. C'est à nous. L'islam réclame Jérusalem. Abraham y a offert son fils Ismaël. Oups, ça c'est l'islam qui dit ça. Nous, on a une autre histoire. Abraham y a offert son fils Isaac. Et le christianisme réclame Jérusalem aussi. Le christianisme a fait des croisés. Des années 800 à 1000, ou pour essayer de reconquérir Jérusalem, parce que c'était l'endroit où Jésus était mort. C'était le lieu de la rédemption. L'histoire de Jérusalem, elle est glorieuse. Abraham y a offert son fils, on trouve ça dans Genèse chapitre 22. David, le grand roi d'Israël, l'a conquis et en a fait sa capitale. Salomon y a construit le temple, un grand temple. Il a construit une grande maison aussi, la maison du roi, mais il a construit un grand temple. Et si vous vous souvenez, ce temple-là est devenu le centre de la nation, le centre de la religion d'Israël. Et dans la Bible, dit aux deux Chroniques, chapitre 7, verset 16, l'Éternel a dit, « Là, j'ai promis d'y placer à toujours mes yeux et mon cœur. » Dieu a promis à Salomon qu'à Jérusalem, pour toujours, il allait y placer ses yeux, il allait y placer son cœur. Là, le roi Hérode, on peut changer, le roi Hérode a reconstruit le temple de Salomon. Et Hérode, pendant tout le temps de sa vie, Hérode, c'est du temps de Jésus, il était là quand Jésus est né, et pendant tout le temps de sa vie, il a refait de Jérusalem une ville des plus splendides, avec un temple des plus splendides à Jérusalem. À un moment donné, Jésus avait dit « Détruisez ce temple, puis en trois jours, je vais le rebâtir. » Puis les Juifs avaient dit « Hein? Détruire le temple? Sais-tu que ça fait 40 ans qui se construit, puis il n'est pas fini encore. Il n'a jamais été fini jusqu'en l'an 70, quand il a été détruit. Il n'était pas encore terminé. Mais Hérode avait fait de Jérusalem et de son temple, vous voyez ici les murs, une des grandes merveilles du monde. Et à l'intérieur, vous voyez ici ce qu'on appelle la porte dorée, elle était ouverte. Et ici, ça s'appelle l'esplanade, c'est la partie élevée où présentement la mosquée d'Omar se trouve. Mais face à cette porte, ici, il y avait le temple de Salomon qui était là. Et ce temple-là était fait en marbre, blanc, tout était brillant là. Et Hérode avait fait placer sur les murs du côté est, parce qu'ici on a encore la montagne des Oliviers, on est du côté est. Alors, quand le soleil se levait, Hérode avait placé sur les murs des grands panneaux dorés, de sorte que le soleil brillait sur le mur et ça avait l'air de façon très glorieuse, Jérusalem. Encore aujourd'hui, quand je visitais Jérusalem, on visite Israël, puis le jour où on va à Jérusalem, on nous amène en voiture sur le haut de la montagne des Oliviers. Et là, il y a un beau parking qui est élevé, et là, soudainement, on tourne la courbe, on arrête l'autobus, on débarque, et on voit toute Jérusalem, le temple, la porte dorée qui était au temps de Jésus, juste vis-à-vis la porte, la belle du temple d'Hérode. C'est merveilleux à voir. Hérode en a fait un temple splendide. Mais Jérusalem, c'est le point culminant de l'histoire aussi. Parce que lorsque Dieu a foulé le sol de la terre, il a choisi la nation d'Israël pour habiter, puis à Jérusalem, Jésus y a fait le sacrifice ultime de sa vie, pour moi, pour vous, pour l'humanité. Et à cause de ce sacrifice fait à Jérusalem, j'ai trouvé la paix avec Dieu, la possession de la paix, le fondement de la paix. À Jérusalem, je l'ai trouvé, parce que le prince de la paix y a offert sa vie sur ce mont du Calvaire, à Jérusalem. Dans ce matin, dans Luc chapitre 19, les versets 28 à 44, Jésus achève son ministère. Nous arrivons maintenant à la dernière semaine de la vie de Jésus. Et Jésus, dans notre histoire, il va, si tu recules encore Jésus, dans notre histoire, il va arriver du côté du mont des Oliviers. Deux villages sont du côté est de Jérusalem, Bethphagé, Béthanie. Béthanie, on le connaît bien, c'était l'endroit où Jésus avait des amis, Marie, Marthe, Lazare. Et il va arriver de ce côté-là, du haut du mont des Oliviers. Et l'entrée triomphale à Jérusalem, c'est ce qu'on va voir ce matin. Il monte là, et quand il arrive sur le sommet du mont des Oliviers, et apparaît Jérusalem, le temple, la gloire, l'or, les belles choses. Il arrive là ce matin. Il monte à Jérusalem, la ville de sa destinée. Il s'approche de Jérusalem comme le roi d'Israël, comme le prince de la paix qui vient offrir au peuple, comme pour toute l'humanité, la réconciliation avec Dieu. Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est quand Jésus arrive sur le haut du mont des Oliviers, avec l'acclamation de la foule, il voit Jérusalem et il pleure. Il pleure sur elle. Prenons la troisième image. Aujourd'hui, on peut voir à peu près la même chose. C'est du mont des Oliviers qu'on prend une photo, encore la porte de la Belle, où Jésus est entré de façon triomphale. Après la vie de Jésus, on a fermé cette porte-là, mais avant, ce que l'on voit, les deux arches ici, c'était une porte, elle était ouverte. C'était la porte dorée, la porte qui réfléchissait le soleil. Et juste de l'autre côté de la porte était le temple d'Hérode, et c'était la porte la Belle. On voit dans le livre des Actes, un boiteux était là à la porte de la Belle, il a été relevé. C'était juste de l'autre côté. Jésus était sur le mont. Il y a des belles fleurs aujourd'hui, j'imagine. Je ne sais pas si c'était aussi beau que ça, autant en l'entrant, mais Jésus est là et il voit ça. Il voit la porte et il pleure sur elle. Parce que Jérusalem va rejeter son roi. Et Jérusalem va subir les conséquences tragiques qui sont encore présentes aujourd'hui. Certainement que Jésus, quand il était sur la terre, a eu l'occasion d'exprimer sa joie sur la terre. Mais il n'a jamais eu d'occasion plus significative, plus remarquable de pleurer qu'à ce moment-là. Et j'aimerais ce matin qu'on médite un peu sur ces pleurs de Jésus, pour les comprendre le sens, pour en comprendre le sens, et puis pour en tirer quelques leçons. Je veux qu'on se couvre devant lui d'abord. Seigneur, merci encore, ta parole nous est ouverte. ta parole nous révèle ton Fils Jésus, qui est venu sur la terre, comme Luc nous a dit, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et qui, sur le mont des Oliviers, pouvait voir Jérusalem et a pleuré pour elle. Parce qu'il y avait des gens à l'intérieur. Et il connaissait ce qui lui arriverait. Seigneur, je veux te prier ce matin que dans nos cœurs, on puisse avoir ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour lorsque nous regardions ceux qui nous entourent, nous puissions partager tes sentiments, voire même tes pleurs. Afin, Seigneur, que nous puissions agir comme toi tu as agi, en donnant ta vie pour les gens de Jérusalem, comme pour moi, comme pour les gens du monde entier. Alors, Seigneur, dirige-nous dans ta parole ce matin. Lève nos yeux vers toi, vers ton cœur, et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Luc, chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel. » Et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples !» Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Quel beau passage, je disais ça, j'étais ému cette semaine quand je pensais à Jérusalem, et Jésus qui arrive à cette ville de destinée et qui voit finalement Jérusalem. Premièrement, on voit dans le texte la présentation du roi. Il s'approche. Jésus s'était arrêté à Béthanie, comme j'ai mentionné, du côté ouest du mont des Oliviers. Jean chapitre 11 et 12 nous rappelle que, Jean chapitre 12, que là, Marie, Marthe avait fait un souper d'adieu pour Jésus. Lazare était là, Lazare avait été ressuscité juste quelque temps précédemment. Alors, Lazare était le témoin officiel de la puissance des miracles de Dieu. Je ne sais pas si Zachée était là, je ne sais pas si l'aveugle de Jéricho était là, mais il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient confirmer l'œuvre de Jésus, les miracles qu'il avait faits. Et la foule continuait de le suivre, comme le texte nous dit dans le verset 37. Elle était saisie de joie, elle se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'elle avait vus. Elle avait vu tellement de miracles. Et Jésus, à partir de Béthanie. Il fait envoyer des disciples probablement à Bethphagée, comme on a vu dans le texte. Et il fait venir un anon pour entrer dans Jérusalem. Et on n'a pas le temps de voir est-ce qu'il a fait venir cet anon-là parce qu'il avait vu d'avance par son toute omniscience ou si c'est plutôt parce qu'il était bien connu dans cette région-là, puis il connaissait les propriétaires, puis il a dit « va chercher vos canacs, puis va chercher là, il y a toujours un anon de parquet là, fait que va le chercher, puis si les propriétaires disent, ils font sonner l'alarme, tu dis « le Seigneur en a besoin ». Moi, je m'imagine que c'était plus ça, il devait connaître les gens d'avance, puis il a dit « va chercher l'anon, amène-le, j'en ai besoin, j'ai besoin d'un anon ». Pour exercer, pour entrer dans Jérusalem. Et les maîtres, les propriétaires de l'anon, ils posent la question, le Seigneur en a besoin, puis l'anon vient suivre et se joint à Jésus. Pourquoi un anon? Pour un roi conquérant. Cette semaine, je pensais à Napoléon Bonaparte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous rappelez des images de Napoléon. On voit Napoléon en conquête, et souvent Napoléon est sur un cheval qui est debout, puis il est debout sur son cheval, dominant, c'est un conquérant. Il fonce, il va conquérir Napoléon sur son cheval. Jésus lui fait venir un anon. Un anon que jamais personne n'embarquait dessus. Ça avait toute une grande signification. C'était pas un hasard, c'était une prophétie tournée dans Zacharie chapitre 9. S'ils avaient pris le défi d'apprendre les livres de la Bible, c'est utile. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 9. Mais ce anon-là est le résultat de la prophétie. Il était pur. Il était prêt pour un usage sacré parce qu'il n'avait jamais été utilisé pour des fins humaines. C'est pour ça qu'il était un anon de choix. Et il vient. Il est appelé, tourné dans Zacharie chapitre 9, le verset 9. Et Jésus, contrairement à Napoléon, il est humble et doux. Il apporte la paix à Jérusalem, fondement de la paix. Il va dominer sur le monde pour la paix. Zacharie, vous avez trouvé chapitre 9. C'est une prophétie pour Jérusalem encore et son Messie. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, qu'est-ce qui arrive? Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. » Il va arrêter la guerre. Il annoncera, ce roi-là, la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre. Oh, ça, c'est notre devise au Canada. Vous savez ça, hein? Il est trouvé dans la Bible. C'est juste là. Anne-Marie, ou quoi Anne-Marie? C'est là. C'est ce Zacharie-là. Il dominera d'une mer à l'autre. C'est pas le premier ministre. C'était prévu pour Jésus. Qu'elle allait dominer sur toute la terre. Mais c'est là. Ce Messie-là, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ton roi vient à toi, humble et doux, assis sur un anon. Il vient pour conquérir ton cœur avec la croix, plutôt que tes biens avec l'épée. Jésus fait venir l'anon, parce qu'il va venir faire cesser la guerre. Il va venir annoncer la paix au monde et il va dominer toute la terre par la justice, par l'humilité. Les gens voient l'anon, placent Jésus dessus, se rappellent certainement Zacharie 9 et transportés de joie, ils glorifient ce qui arrive, ils acclament Jésus. Les supporters arrivent sur le mont des Oliviers, puis comme il dit dans la descente, ils commencent à voir le temple, et là, ils acclament Jésus comme le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. Vous avez remarqué le verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Tournez, s'il vous plaît, encore dans le psaume 118. La foule était en train de dire des choses qui peut-être dépassaient sa compréhension, mais était emportée d'enthousiasme et de joie pour Jésus, le roi d'Israël. Elle voulait le présenter à la ville, voyant la ville. Psaume 118, verset 19. J'imagine qu'il devait lire ça, qu'il devait chanter ça, puisque c'est un cantique. Du verset 19, « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. » Vous voyez la porte dorée. Voici la porte, c'est ce qu'il voyait là. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le roi, comme il dit dans le qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. J'imagine que la foule en enthousiasme acclamait Jésus comme « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi, porte, ouvrez-vous, laissez entrer le roi de gloire, laissez entrer le roi parce que le roi est là. » Et peut-être que pour les disciples qui lisaient ces psaumes et qui se réjouissaient, peut-être qu'ils ne comprenaient pas toute la portée de ce qu'il était en train de dire, mais les pharisiens qui étaient là voient, il est en train de Zacharie chapitre 9, là non, il est en train de citer des promesses qui appartiennent juste au Messie. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Qu'est-ce qu'il y avait dans le texte? Jésus, qu'est-ce qu'il devrait faire? Devrait dire à son monde, calmez-vous, là, mettez-en pas trop, là, retiens tes disciples. Et qu'est-ce que Jésus fait? Oh, c'est vrai, ils en mettent pas mal, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Never mind, ils ont raison! Parce que c'est vrai, je suis le roi, je présente la vie éternelle, le salut, je me présente à la nation. Si eux, ils crient pas, les pierres vont se lever puis vont crier. J'aurais aimé ça voir ça, par exemple. En tout cas, c'est vrai. Les acclamations des disciples sont bien fondées. Alors là, Jésus marche au milieu des acclamations. Et ça ne lui monte pas tout à fait à la tête. Ou si ça le monte à la tête, ça fait différent. Parce que vient son tour de passer sur le dessus du mont des Oliviers puis d'aller dans la descente. Si vous relisez le livre, regardez comment l'auteur fait attention au texte. Si c'était à Bethphagée de l'autre côté, puis là, il était en train de descendre le mont des Oliviers, puis là, c'est quand Jésus qui commence à descendre, il voit la ville. Il est très attaché à la géographie de Jérusalem. Jésus ayant accepté l'acclamation de la foule s'approche. Et à son tour, il obtient son premier regard de la ville. Et là, il s'arrête. Et il pleure. Là, il s'arrête et il pleure. Au-delà des hommages des disciples, Jésus anticipe qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem. Il anticipe le rejet officiel de sa royauté par son peuple, par la nation d'Israël. Dans les versets 41 et 42, il nous parle comment Israël a méconnu son Messie. Jésus insiste, « Si toi, Jérusalem, si toi aussi, si toi au moins, toi qui as toutes les Écritures, toi qui devrais tout savoir, toi qui devrais être tellement bien préparé pour ton Messie, si au moins toi t'avais connu ça, si au moins toi t'avais connu les choses qui appartiennent vraiment à ta paix. » Mais non. Non, Jésus est venu offrir la paix. Mais il va être rejeté quelques jours plus tard comme un imposteur contre des gens qui vont dire « On a d'autres rois que César. » Les religieux de Jérusalem savaient bien mieux. Même toi, tu n'as pas reconnu ton Sauveur. Jésus, Israël n'a pas connu les choses qui appartenaient à sa paix. Israël a fermé les yeux aux œuvres de Jésus qu'il avait fait pendant quelques années là. Israël a fermé ses oreilles à l'enseignement de Jésus. Jésus était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Mais la Bible dit Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et Jésus voit ça. La paix et la bénédiction exigent l'accueil personnel. Et Israël n'a pas accueilli son Messie. Jésus était venu pour bénir Jérusalem, mais Jérusalem l'a rejeté. Jésus voulait le salut du monde comme le salut de Jérusalem. Mais sur le mont des Oliviers, il est attristé par le rejet de son peuple, par le rejet d'Israël. Et Jésus va dire, « Je te visite pour le salut. » Mais si tu n'accueilles pas le salut, sache que je ne suis pas venu te visiter en vain. Il y aura des conséquences à rejeter le fait que je t'ai visité. Et c'est ce qu'il va nous mentionner au verset 43 et 44. Ton refus va amener le jugement. Retourne donc à la deuxième acétate, s'il te plaît, Richard. Le jugement, c'est que autour de toi, maintenant, il y aura des tranchées. Et ça va, les armées vont te resserrer, ils vont te refouler, et ils vont aller tuer toi et tes enfants. Et Jésus prophétisait qu'est-ce qui est arrivé juste une trentaine, quarantaine d'années plus tard, le général Titus qui est entré dans Jérusalem, il est devenu César après, César Titus. Et il a jeté, il n'y a pas eu pierre sur pierre qui est resté. Aujourd'hui, de ce temple original, il reste très peu de choses. Le mur occidental, une partie, ou le mur des lamentations que l'on appelle, mais tout a été mis à terre. Ça, c'est ces murs-là, ils sont bien beaux, là, mais c'est tout reconstruit là, après Jésus. Du mur original, il reste très peu de choses. Mais tout a été jeté à terre. Le temple a été jeté à terre. Vous voyez encore ces plats-là. Oh, j'ai pas le temps de dire d'autres choses là-dessus, mais... tout a été jeté parce que Israël a rejeté le fait que Jésus, son Messie, l'a visité. Jérusalem est toujours, encore aujourd'hui, dans la désolation parce qu'il a rejeté son roi. Il est toujours malmené par les nations. Et c'est pour ça que si vous allez sur la rue, vous demandez qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, c'est quoi Jérusalem? C'est conflit, c'est guerre, c'est guerre de religion, c'est arabes et juifs et les chrétiens qui sont là-dedans, on ne sait pas trop où. Jérusalem est encore malmené par les nations jusqu'à ce que le prince de la paix revienne à nouveau et établisse la paix comme Zacharie chapitre 9 l'avait mentionné. Parce que si Jésus a visité Israël, a été rejeté, son plan n'a pas arrêté. Tournez avec moi dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Les versets 11 à 15. Parce que Israël a rejeté son roi, le plan du roi demeure. Dieu n'est pas dépourvu par la désobéissance humaine. Le texte de Romains 11 va nous dire que ce rejet de Jésus a ouvert, j'allais dire prématurément, encore plus tôt, la porte du salut aux païens, à vous et à moi, et a reporté cette bénédiction, cette restauration, mais à grand prix. Ce sera suite à une grande tribulation qui va tomber sur Israël. Romains chapitre 11, verset 11. Paul y se pose la question au sujet d'Israël, du peuple juif. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce que c'est pour disparaître complètement qu'ils ont fait des faux pas, Israël? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donnez-moi deux conséquences du fait qu'Israël a rejeté le Messie. Vous avez pu être sauvés. Le message de l'Évangile vous est parvenu plus rapidement. L'Évangile vous a été communiqué. Et dites-moi une autre raison pourquoi Dieu vous a sauvés. Vous, les chrétiens, aujourd'hui. Pour que maintenant, vous regardiez vers Israël. Que vous manifestiez dans votre vie la joie de connaître l'Éternel. La joie d'avoir le bon berger qui vous conduit, qui vous console, qui vous donne l'espérance de la vie éternelle. Et ça devrait être si évident, si pressant que vous avez le Dieu d'Israël pour sauveur, pour Seigneur, que les Juifs vous regardent. Puis qu'ils disent, hey, je veux l'avoir ça. Puis que vous, comme croyant, vous pouvez dire à ces amis juifs, C'est toujours la même manière d'être sauvé. Repends-toi de tes péchés puis accepte le Messie. Pour vous, vous pouvez mettre les Juifs jaloux du salut que vous possédez si vous en parlez d'abord. Malheureusement, je regarde l'histoire du christianisme et c'est pas ça que je vois bien, bien. Je vois que les chrétiens ont été bien plus écrasés, le peuple juif, qu'essayer de l'élever. Et je peux comprendre que les Juifs aujourd'hui ne marchent pas avec Dieu terriblement bien, puis qu'ils sont les médias les mettent toutes les dépeignent toutes terriblement, puis ils ont partiellement raison parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Mais gardons-nous, nous, de mépriser Israël. Je disais donc, verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, ça veut dire notre richesse à nous, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Dieu a un plan de restauration massive d'Israël. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible, d'exciter à la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Israël a rejeté son Messie, mais Jésus va revenir. Et suite à la grande tribulation, Israël va se convertir en masse. Et bientôt, comme Matthieu va le dire en Matthieu chapitre 23, verset 39, Jésus a dit, « Votre maison sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, quoi? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Qu'est-ce que les disciples enthousiastes disaient quand Jésus est venu entrer? Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Vous avez rejeté ça. Et Jésus va dire, je vais revenir quand vous, comme nation, vous allez dire à votre encore, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi avait un plan. Mais quelle est ma réponse à moi, un païen? À vous, j'imagine, en grande majorité païen, ça veut dire non-juif. Quelle est votre réponse au roi? Je vais me dire trois éléments. Un, il faut accueillir le roi lorsqu'il nous visite. Jésus a visité son peuple. Son peuple a rejeté et il y a eu des conséquences tragiques. Savez-vous que Jésus visite encore la planète? Jésus encore s'approche de vous. Jésus m'a été présenté il y a 30 ans. Il a passé par chez moi et il fallait l'accueillir. Et Jésus voudrait passer par les rues de Québec et rencontrer les gens de Québec et les inviter à trouver la paix en lui, la vie éternelle. Et lorsque nous sommes présentés à Jésus, le prince de la paix, celui qui a vaincu la mort et celui qui offre la vie éternelle, il faut l'accueillir. Il faut croire en lui, ce prince de la paix, pour avoir la paix avec Dieu, pour recevoir la paix de Dieu et pour pouvoir manifester, être des artisans de paix autour de nous. Nous avons besoin d'accueillir le roi Jésus lorsque nous sommes visités. Il nous faut recevoir la paix qu'offre Jésus comme sauveur. Parce que si je ne l'accepte pas quand il me visite comme sauveur, il va me visiter à nouveau, mais dans le jugement. Comment voulez-vous recevoir Jésus en visite? Comme sauveur ou comme juge? Je prie que chacun d'entre vous ce matin, vous avez cette assurance que non seulement vous avez vu passer Jésus parce que vous avez entendu le message, vous avez rencontré des chrétiens, des petits Jésus, mais que vous l'avez fait le choix de l'accueillir, d'ouvrir vos portes, de dire « Entre Seigneur dans ma vie ». Il faut accueillir le roi lorsque nous sommes visités. Et je m'imagine que la grande majorité ici des gens sont des croyants, des gens qui ont accueilli Jésus. Alors il faut le célébrer, ce salut-là. Il faut célébrer le salut de Jésus. J'aime l'enthousiasme, j'aime l'excitation qu'il y avait dans ces disciples-là. Il en mettait de la joie. On a besoin de célébrer le salut de Jésus de la même manière. Il faut apprendre à célébrer Jésus avec enthousiasme, comme la foule des disciples. Béni soit le nom du Seigneur. Des fois, on le chante. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son merveilleux. Donc, on a plein de chants qui célèbrent notre joie. Et j'aimerais donc ça que ça vienne souvent du fond de notre cœur, puis qu'on célèbre, oh oui, qu'on célèbre ensemble. Le lundi aussi, on a le droit de le faire. Le mardi aussi, on a le droit de célébrer. On a le droit d'être au travail, puis les gens disent, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai la joie dans le cœur. Hein, voyons donc, il pleut dehors. J'ai la joie dans le cœur, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai la joie de Jésus. Il me donne la paix, la sécurité, la vie éternelle. On doit apprendre aussi à pleurer sur la ville et à demander la paix de la ville en Jésus. Les pleurs de Jésus provenaient de la réalisation des péchés de Jérusalem. Jérusalem, c'était des gens qui vivaient là. Et Jésus a pleuré devant leur situation désespérante. Et nous aussi, on doit apprendre ce secret-là des pleurs de Jésus. De regarder à notre ville, à nous, et de pleurer pour elle. Parce que la situation de la ville de Québec est la même que celle de Jérusalem. Les gens sont aussi perdus. Maintenant, est-ce qu'on a des yeux puis un cœur comme Jésus quand on regarde à ces gens-là? Est-ce qu'on pleure sur le sort des gens comme Jésus a pleuré sur leur sort? Il a pleuré et il a agi, il a offert sa vie en sacrifice. J'aime un chant, un vieux chant que j'ai entendu il y a bien longtemps de George Beverly Shea. Il était le chanteur avec Billy Graham. Ça fait longtemps, ça. Mais en français, je traduis son chant, ça dit « Seigneur, fais-moi voir ce monde comme si c'était moi qui regardais à travers tes yeux. Laisse-moi m'agenouiller avec toi dans le jardin, dans le même jardin des oliviers que Jésus s'est agenouillé un peu plus tard dans la semaine à regarder la même ville. Laisse-moi m'agenouiller dans le jardin et pleurer pour les hommes sur le chemin de l'enfer. » En anglais, ça a plus de beauté des fois, parce que c'est assez la langue. Ça dit, « Let me see this world, dear Lord, as though I was looking through your eyes. Let me kneel with you in the garden and grieve for men held bound eternally. » Que Dieu nous donne les yeux, ses yeux à lui, pour qu'on puisse voir le monde comme lui les voyait et pleurer pour notre ville. Priez aussi, non seulement pour la ville de Québec, mais priez pour la paix de Jérusalem. J'aime le psaume 122. Il dit dans les versets 6 à 8, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Dieu avait dit à Abraham, « Je bénirai ceux que tu béniras, puis je maudirai ceux qui te maudiront. » Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Que Jérusalem, comme Québec, reçoive nos prières pour sa paix. Que la paix soit sur Québec. Que la paix soit à Jérusalem. Que la paix soit trouvée en Jésus. Ô Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton cœur qui nous montre ce matin un peu la profondeur de ton amour. Ta tristesse pour les âmes perdues. Seigneur, donne-nous un peu de cette attitude qui était en toi, afin non seulement que nous célébrions la paix que nous avons trouvée en toi, mais que nous pleurions aussi avec toi sur les âmes qui périssent autour de nous. Et puissions-nous, Seigneur Dieu, proclamer, partager cette paix en Jésus. Nous te prions en ton nom. Amen. Ça me fait penser que ce soir, comme j'ai dit, il y a un concert.